Hello, hello, salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Recevez les salutations d'un champion d'Afrique. J'enregistre l'intro de l'épisode juste après la CAN. Et je suis trop trop content. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire, félicitations à toutes les équipes qui n'ont pas démérité. Mention spéciale au Cap-Vert et à mon pote Raoni, qui se sont très très bien battus, mais qui malheureusement sont sortis en quart de finale. On va retourner aux fondamentaux, back to basic. Désolé pour ce mois où on a totalement disparu pour se consacrer, bien sûr, à la CAN. En fait, j'avais en tête que personne ne serait très, très motivé pour écouter les podcasts dans les géographies où on nous écoute principalement parce qu'il y avait la CAN, donc forcément en Afrique et la diaspora en France. Mais voilà, c'est bon, on revient, on reprend tout là où on avait tout laissé. Là, en actualité, moi, je vais bien. J'espère que vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, mais nous, moi, je vais bien, revenu d'un peu de fatigue, dû à la CAN et à toute cette période. Là, on reprend un enregistrement en public assez rapidement, donc lundi prochain, lundi 26, avec Mambi Diomandé, qui est un ami qui était membre de la commission culturelle, des affaires culturelles et touristiques du COCAN, et donc a participé à l'animation de l'ensemble du COCAN, donc des espaces VIP sur les terrains, sur les stades et VVIP, qui a participé à la cérémonie d'ouverture, à l'organisation de la cérémonie d'ouverture avec Richard Attias et associé, à la cérémonie de clôture aussi, bien sûr. Donc on va parler un peu de tout ça, de sa vie à lui, qui est diplômé ingénieur de l'INPHB, de l'Institut Polytechnique de Côte d'Ivoire, et qui a bifurqué dans sa carrière vers l'entrepreneurship culturel, qui a fini par diriger le Live and Brand et ensuite la direction commerciale de mémoire chez Universal Music Africa, et qui aujourd'hui, il nous dira, mais je crois que dans l'entrepreneuriat, il nous dira ce vers quoi il se tourne. En attendant lundi, aujourd'hui je vous propose un épisode ouf, avec une des personnes les plus, en vrai je le dis, enfin je l'ai jamais dit en réel, mais une des personnes que je trouve les plus inspirantes et en tout cas assez marquante pour moi, Penda Sow. Là, il y aura le manager de PAPS, c'est la boîte de la startup tech de logistique en Côte d'Ivoire. Penda se définit comme une amoureuse de la vie et du travail, et c'est clairement comme ça que je l'aperçois. Elle a l'air bonne vivante, Penda profite de sa vie, fait des voyages, toujours coquette. Et en même temps, en parallèle, Penda semble hyper focus sur le travail, fait avancer ses sujets, est très très carré dans la manière d'aborder les sujets professionnels. Un peu première de classe même, à la limite. Mais bon, je pense que c'est des sujets qu'elle a bien identifiés chez elle et qu'elle contrebalance bien avec son amour de la vie et de comment elle progresse, comment elle s'amuse et comment elle profite de sa vie au quotidien. Avec Penda, on parle de beaucoup de choses. On parle de les principaux points qu'il faut regarder au moment où tu montes ta start-up, qu'est-ce qu'il faut maîtriser. Penda nous parle de la finance, de la gestion de ses partenaires, donc fournisseurs et clients, du RH qu'elle évoque être très très important. On parle aussi de la gestion des difficultés clients, des ratés, d'une mauvaise expérience client, comment est-ce qu'elle gère ça au quotidien. Et Penda donne des très très beaux tips. PAPS a un fort usage de la data. Comment est-ce qu'on arrive à gérer la data avec les adresses des gens, qu'est-ce qu'on en fait derrière, quel business peut se développer derrière cette activité-là. Et enfin, PAPS a une forte période de fame, donc de mise en lumière de ses activités il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et Penda nous explique comment gérer cette fame-là, comment, quand tous les projecteurs sont sur vous, comment ne pas en faire en tout cas gérer le risque qui vient avec, et en même temps en profiter pour pouvoir recruter les meilleurs talents, parce que bien sûr les gens sont attirés par la crédibilité que donnent toutes ces apparitions médias. Donc voilà, épisode très très complet, je vous souhaite une très très bonne écoute. Je vous dis merci de nous suivre, mes excuses à toutes les personnes qui nous ont écrit pour nous dire que qu'on les manquait, que ça faisait trop longtemps et qu'ils avaient hâte de nous réentendre. Ben voilà, on est de retour pour vous faire plaisir toujours plus et nous permettre ensemble de grandir collectivement et d'atteindre ensemble notre plein potentiel professionnel. Allez, salut, très bonne écoute, à très vite. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de revoir certains visages qui étaient là il y a quasiment un mois, hein, c'était le 26 et là on est le 23. Merci beaucoup pour votre présence encore et tous les nouveaux aussi qui viennent d'arriver, qui sont venus pour Penda, pour le podcast. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Malik Diabaté, ça fait 4 ans On est dans la cinquième saison du podcast. Je vois beaucoup de visages. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui sont passées sur le podcast, qui sont au même endroit. Landry vient finalement ou il ne pourra pas? Il ne pourra pas? Tu le représentes. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre présence. On va aujourd'hui prendre le temps de découvrir Penda So, donc avec laquelle on a une histoire particulière quand même, mais on aura l'occasion de revenir dessus. De revenir sur son parcours, sur sa carrière, sur ses achievements, ses douleurs, ses leçons qu'elle a apprises. Et on aura aussi le temps de discuter, vous et nous, tous ensemble, à l'extérieur, à la fin de l'événement. Je suis content de voir la salle remplie. Et je pense qu'il y a encore quelques-uns qui vont arriver, qui ont peut-être galéré à s'asseoir d'ailleurs. Mais bon, les premiers seront servis. Penda, je vais te laisser te présenter. Mais je vais quand même te dire comment on se connaît. on s'est connus, la première fois que j'ai rencontré Penda, c'était lors d'un entretien d'embauche. Penda me faisait l'entretien d'embauche. Tu étais à l'époque Head of Strategy pour PAPS et je faisais l'entretien pour ton poste que j'ai eu. Mais bon, là, ceci est une autre longue histoire. On était alumni tous les deux de EY, donc ça a été très très simple de discuter. Ouais. Moi, j'ai dit sur LinkedIn, c'est un de mes interviews les plus simples. Parce qu'on s'est très vite compris, on avait beaucoup d'attentes crochues, on a passé un super moment, je pense.
C'était un super moment, je confirme. Ouais.
Et puis après, le reste de l'histoire, on aura l'occasion d'en parler. Je vais essayer de présenter Penda, me dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as envie de nous dire sur toi, comment tu veux qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi aujourd'hui. D'accord. Et puis on va dérouler le cours de l'interview.
Ok, bah très bien. Bah, déjà, merci beaucoup Malik de m'inviter.
Grand plaisir.
Un honneur pour moi d'être sur ce podcast que j'aime beaucoup, que j'écoute très souvent. J'écoute beaucoup de podcasts tout le temps entre deux activités. Je mets toujours un peu de fond sonore et du coup, Tools of Winter, c'est un de mes podcasts préférés. Je trouve ça super authentique avec des gens légers, profonds, très, très simples, mais très profonds. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir fait le déplacement pour venir nous écouter. Je serais très ravie. Effectivement, enfin, Malik, on s'était connus il y a 2 ans. Et c'était marrant parce qu'en fait, quand on faisait l'entretien, c'était dans les locaux d'EY, Paris,
c'est ça, ouais.
Et dans les bulles, enfin, on appelle les petites salles, on appelait les bulles. Et quand Malik met sa caméra, je dis, mais Malik, enfin,
je connais cet endroit.
Je la connais trop, j'y ai passé un peu trop d'heures. Est-ce que tu me confirmes que tu es chez EY? Et il me dit, effectivement, parce que je pense que c'était récent.
Oui, moi je viens d'arriver.
Voilà, et donc c'était pas encore sur le CV, donc je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc pour me présenter rapidement, donc Penda So, je suis sénégalaise, donc j'ai 33 ans. Et je vis à Abidjan depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, comme Malik disait, donc je dirige les filiales Côte d'Ivoire et Bénin pour une entreprise qui est dénommée PAPS. On aura l'occasion de développer plus tard. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours un peu de mal à me présenter. Parce que je me dis toujours qu'on se présente beaucoup dans ce type de setup, en tout cas sous un angle très professionnel. Mais après, moi je me dis, je suis un peu de ça, entre guillemets, mais bien plus que ça. So I'm always confused. en vrai, moi je me définis vraiment comme un bon mélange d'une amoureuse de la vie et d'une amoureuse du travail. Okay. Et aujourd'hui, moi, je me vois vraiment comme une entité au sein de laquelle il n'y a pas vraiment de dichotomie entre le pro et le perso. Les deux sont mélangés et cohabitent parfaitement dans l'entité que je suis. Et donc, si je me vois comme un sujet, donc moi, sujet, je travaille comme je suis. Vraiment, ma profession, je l'exerce vraiment comme je suis. Et dans la vie perso, je travaille tout le temps. Au travail, je vis. Et dans la vie, je vis pleinement. Du coup, je suis un bon mélange de tout ça. Et je préfère me définir comme ça.
D'accord.
Plutôt que par un titre, une position. Voilà.
On aura l'occasion de te définir ensemble, de toute façon, tout le temps. Et la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu as de révolté en toi?
Alors, qu'est-ce que j'ai de révolté? J'ai plusieurs choses de révolté. Mais du coup, il faudra que je fasse des choix. Il faudra que je fasse des choix pour en parler. Alors, je dirais que moi, je m'indigne beaucoup face à l'injustice. Je suis contre l'injustice, sous toutes ses formes. Après, quand on peut dire injustice, je veux dire, il y a trop d'injustice dans ce monde, sous toutes les formes, contre tous les genres. Mais après, il y a des formes d'injustice qui m'affectent plus que d'autres. Et si je dois en parler sur ce podcast d'une forme d'injustice en particulier, ce serait vraiment, si je prends l'exemple au Sénégal, le cas du Sénégal, le fait que les femmes n'aient pas le droit de disposer de leur corps, comme elles l'entendent. Je m'explique.
Bien sûr.
Aujourd'hui, les femmes qui subissent des viols et qui tombent enceintes, malheureusement, l'avortement n'est pas autorisé au Sénégal, ce n'est pas légal. Et je me dis, je ne dis pas que systématiquement, toute femme qui tombe enceinte parce qu'elle a été violée, ce qui est horrible déjà, doit avorter, mais qu'on ait le droit, que les femmes aient le droit de pouvoir avorter si elles décident d'avorter. Même si c'est très tabou, même si c'est des sociétés où la religion prime, mais tout le monde n'est pas, enfin je veux dire, tout le monde n'est pas religieux déjà, il faut qu'on accepte ça aussi dans nos sociétés. Ça me révolte énormément. Et que le sujet ne soit même pas posé sur nos tables, enfin je veux dire, il faut qu'on ait une Simone Veil au Sénégal, clairement, à un moment. Ce ne sera pas moi, je n'oserai pas.
Pourquoi?
Je serai trop pointée du doigt, mais je me dis ça me révolte énormément. Et après, bon, ça c'est la chose qui bouillonne en moi et je pense que pour laquelle malheureusement je ne peux rien faire. Mais après, l'autre chose, pas que je trouve injuste, mais pour laquelle en tout cas j'aimerais m'investir et qui serait un combat pour moi, c'est l'éducation des filles. Okay. Moi je compte beaucoup sur l'éducation des filles. Parce que je me dis, si on veut de façon profonde transformer nos économies, nos sociétés, demain en tout cas nous, j'entends africaines, subsahariennes, enfin africaines, tout simplement, il faut qu'on envoie massivement les filles à l'école. Et que demain, je suis sûre qu'avec ça, enfin, on aura des modèles de leaders avec beaucoup de moralité, avec beaucoup de belles valeurs, enfin, sur nos marchés. Et ça changerait. Donc ça, c'est un combat, enfin, qui me tient beaucoup à cœur, que j'essaie de faire à ma petite échelle. C'est pas assez. En tout cas, j'essaie toujours autour de moi de dire à des amis, bah, essayez. Si une, deux personnes, enfin, on investit dans les petites filles qu'on peut croiser partout, les envoyer à l'école, ça ne coûte pas cher. Ça nous coûtera 200 000 l'année et encore, enfin, public, Abidjan, 20 000 pour aller à l'école publique en début d'année avec sa tenue. Ouais. 3 000 pour du soutien scolaire par mois. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je veux, qui m'intéresse, pour lequel je veux combattre plus. Je ne fais pas assez, j'essaie de faire à ma petite échelle, mais que j'essaie de promouvoir dès que j'ai l'occasion. Donc c'est un peu ça, mes combats, slash révolte, slash indignation. Si ça répond
à que je partage avec toi et qu'on ne peut pas se passer de la moitié de l'humanité de toute
clairement.
Façon. Donc
il faut
faire en sorte que tout le monde soit au niveau.
Oui.
Et qu'est-ce qui te motive le matin? Qu'est-ce qui te fait te réveiller le matin?
Qu'est-ce qui fait me réveiller le matin? Alors, beaucoup de choses. Donc, le matin, moi, quand je me réveille, déjà, je vais me pomponner. Ça fait plaisir. ça paraît superficiel, mais ça fait plaisir.
Très bien.
Vraiment. Non, mais non, en vrai, enfin, blague à part, parce que j'aime toujours dire deux, trois blagues entre deux choses sérieuses. Mais en vrai, ce qui me motive, moi, le matin, c'est les gens. Parce que je sais que quand je me réveille, j'irai voir des belles personnes au bureau, des Aïcha, des Marie, des gens qui en veulent, et ça fait plaisir. Je sais qu'on échangera, on fera bouger des choses, on exécute vite, et voilà. Et mon énergie, je l'attire beaucoup des gens, donc je suis assez extravertie, donc tous les jours, je sais que je vais aller vers des gens. Et pour une mission, c'est surtout ça. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, je peux parler d'aujourd'hui, ce qui me fait me lever, c'est la mission. Okay. Ce qu'on veut faire, c'est pas facile du tout. Je dis pas, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, mais c'est la mission qui est jolie, et c'est pour ça qu'on se réveille, c'est ça qui me motive tous les matins, et aller me réveiller, aller tous les jours.
On parlera de ta mission, de la mission tout à l'heure. Pour continuer à te définir ensemble, tu grandis comment? Tu grandis où? Dans quel contexte familial? Qu'est-ce que cette enfance dit de la personne que tu es devenue aujourd'hui, et quel est l'impact que ça a eu sur toi aujourd'hui?
Sûrement aujourd'hui, ok. Alors, comment je grandis? J'ai grandi à Dakar, donc j'ai passé les 18 premières années de ma vie à Dakar. Au Mamel, vraiment la pointe la plus à l'ouest de l'Afrique, et juste en face de l'Atlantique, donc c'est plutôt agréable. Donc famille, classe moyenne, donc papa fonctionnaire, passionné de foot, grand bosseur, et une maman, enfin caissière à la banque, très courageuse aussi. Et voilà, une fratrie de quatre enfants, et vraiment une vie relativement tranquille, relativement tranquille. Mais aussi longtemps que je me souvienne, j'en portais un peu trop de responsabilités dans la famille.
D'accord.
Je pense que très tôt, j'ai grandi en comprenant
que
je devais être... Je suis l'aînée, je suis la fille aînée. J'ai un grand frère, mais je pense que tout le monde oublie que je suis juste la fille aînée, pas l'aînée. Je pense que ça, c'est beaucoup de filles aînées qui vont...
Des responsabilités pour les garçons.
Un peu, oui, c'est ça, exactement. Sans dire que mon frère n'est pas responsable, alors il est très responsable, mais les gens oublient que j'ai un frère aîné. Parfois, j'ai envie de router des choses vers lui. Ça ne marche pas très bien, ça me revient dessus. Mais voilà, donc j'ai grandi avec beaucoup de sens de responsabilité et j'ai tout de suite porté cette responsabilité. Donc j'ai accepté le fait que j'allais être un relais d'éducation pour mes sœurs. Mes parents en tout cas voulaient que je sois un relais d'éducation. Il fallait que je sois un modèle pour mes sœurs. Et quand je dis éducation, relais d'éducation, c'est dans tous les sens. Éducation, enfin dans les valeurs, dans la transmission, éducation à l'école, enfin de faire les exercices de mes sœurs, de les porter. Et c'est marrant parce que mes deux petites sœurs, on a toutes fait la même école de commerce, donc elles ont suivi la même école que j'ai faite. Donc on est toutes les trois diplômées de la même école de commerce. Donc c'est marrant. Donc voilà, donc j'ai grandi un peu comme ça. Et toujours, en fait, avec l'idée, moi j'avais la perception que j'étais toujours plus âgée que les filles de mon âge.
D'accord, parce que j'avais des responsabilités.
Parce que c'était les responsabilités, parce que c'était surtout aussi l'appui que j'apportais à ma mère au foyer. On peut dire que oui, c'est banal, ça arrive à toutes les filles, mais moi, c'était différent. Dès mes 12 ans, enfin, mes journées d'été, de vacances scolaires, c'était la matinée, toute la journée, m'occuper de la famille. Enfin, mes parents allaient au travail, mes frères et sœurs faire à manger, j'avais 12 ans. Et l'après-midi, le soir, c'était jeu de société, Scrabble, Monopoly, jusqu'au petit matin. C'est marrant parce que pour le Monopoly, enfin... On le faisait jusqu'à la nuit, tard. Ouais. Donc je suis restée un peu noctambule, je traîne noctambule, je dors très très tard. Et peu enfant, mais ça c'est, je pense que ça va être intéressant de le partager, j'étais un peu celui qui aimait bien gagner, j'aimais bien être like first, ça veut dire.
Et mais oui, tu as gardé la compétitivité du coup ?
Peut-être, mais ouais. Elle a toujours été saine, j'ai toujours été fair play. Okay. Mais sur les jeux, il fallait que je gagne. Okay. Donc quand on jouait au Scrabble, il fallait que je gagne. Donc ce que je faisais, c'est que moi j'apprenais le dictionnaire officiel du Scrabble. Tous les mots bizarres, W, ouais. Machin, X, machin,
W,
que je plaçais dans les mots triples, machin, parce qu'il fallait que je gagne tout le temps. Quand les autres jouaient à d'autres choses, moi j'apprenais les dictionnaires, et après j'étais là, bam, bam, bam. Mots à 72, 102. Donc voilà, donc j'ai un peu grandi comme ça. Donc une enfance donc relativement tranquille, bien. Après, voilà, vite, j'ai été vite projetée vers la maturité, vraiment. Okay. Et voilà, et toujours j'ai été, je pense que j'ai toujours aussi eu le sens du travail. Ce que je disais tout à l'heure, enfin, mon père, grand bosseur, fonctionnaire, pourtant, moi j'ai compris plus tard que les fonctionnaires ne travaillent pas beaucoup. Parce que moi j'ai grandi voyant mon père bosser beaucoup, donc moi c'était ça le standard. Puis, et du coup, je passais beaucoup mes soirées avec lui à étudier, donc j'aimais beaucoup l'école, le travail du coup. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir été dans des écoles, enfin, à tous les niveaux, avec une bonne culture d'excellence dans les ouais. écoles. Je pense que ça aussi, ça définit, enfin, si ouais, on peut le dire comme ça, peut-être d'une manière ou d'une autre. Et avec des gens vraiment bien, qui la plupart sont devenus des amis, des profs qui étaient des mentors pour nous, et qui voulaient même notre réussite, j'ai l'impression, plus que nos parents, donc c'était assez intéressant. Donc c'est comme ça que je grandis.
Et dès ton bac, est-ce que tu avais déjà l'idée de partir faire tes études à l'étranger ?
Oui.
Dès le bac, d'accord. École française, non,
l'école, non, pas du école tout. Sénégalaise. Okay, non, d'accord. École sénégalaise. J'ai toujours été à l'école publique.
D'accord.
Mon père a toujours voulu nous garder en école publique. Je ne sais pour quelle raison, on a été à l'école publique, enfin, nous quatre, on n'a jamais été en école privée. Autant pour moi, mes dernières sœurs, parce que bon, après les choses, les parents, ils sont un peu plus souples vers la fin.
Bien sûr, ouais.
Donc nous, c'était l'école publique. Et donc oui, l'idée d'aller, bah, le projet d'aller en France, c'était... Mais après, je pense qu'aussi, c'était beaucoup parce que ceux qui nous précédaient prenaient cette voie.
D'accord.
Naturellement, enfin, vers le premier.
Mais ça semblait la voie naturelle.
Exactement, c'était la voie naturelle. Et naturellement, c'était la voie de la prépa, etc.
Okay.
Donc c'était un peu ça. Pas de grande réflexion sur mes études, c'était qu'il fallait aller en France après. Je voulais aller en France.
Tu vas directement à l'école de commerce ?
Alors non. Okay. Alors non. Du coup, après le bac, je suis allée faire mes deux années de classe préparatoire
d'accord.
à Orléans.
Comment ça s'est passé ?
Alors, ça pour le coup, c'est l'objet d'un podcast à part. Non, alors en réalité, après peut-être qu'on va juste faire une petite parenthèse pour ceux qui viennent, ceux qui sont de l'enseignement pas francophone,
d'accord.
tous les anglo-saxons, je pense qu'il y en a quelques. Ouais. Et les classes préparatoires en France, c'est assez particulier. C'est 2 ans, tu as l'impression d'être au lycée, où on t'en demande 100 fois plus, où on te demande, il ne faut quasiment pas dormir, en tout cas pour réussir. En tout cas, moi, c'est comme que j'ai vécu. Enfin, je ne trouvais pas le temps de dormir, mais je n'avais pas de problème parce que je n'avais pas l'habitude de dormir beaucoup. Je dormais 4 heures. Et du coup, ça faisait que je m'engueulais toujours avec mes collègues d'école parce que j'étais à l'internat. Parce que je travaillais jusqu'à 4 heures, mais elle est allée dormir à 21h-22h. Elles avaient des vies équilibrées. Moi, je sais pas.
Non.
Mais bon, moi, c'était mes habitudes. Enfin, équilibre ou pas, c'était ma vie.
Juste être sûr que vous entendez bien.
Hein. Oui.
Tout le monde entend bien. Ok, parfait.
Et du coup, donc 2 années de classe préparatoire, HEC, on va dire ça comme ça,
d'accord.
économie, commerce, option scientifique.
D'accord.
Où j'ai gardé l'option scientifique parce que j'avais fait un bac S1, S, équivalent okay. de C en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, c'est ça.
Option vraiment maths physique. Donc j'avais voulu garder même en prépa commerce. Cette partie option. Scientifique-là avec beaucoup de maths, donc ça c'était cool parce que j'aime beaucoup les maths. Et donc 2 ans de classe préparatoire, et là j'ai fait les concours pour aller en école de commerce,
d'accord.
en grande école. Du coup là j'ai fait Télécom École de Management, ça s'appelait Télécom École de Management à l'époque.
D'accord,
maintenant ça s'appelle Institut Mines Télécom Business School, un peu vraiment le réseau de tous les télécoms de France, toutes les mines, donc Télécom Paris, Sud Paris, Bretagne, etc., toutes les mines dans Saint-Étienne, qui forment un réseau. D'accord. Et nous, on était la business school de l'Institut.
D'accord.
Donc, la seule école. Et on est, l'IMT, c'est la seule business school publique de France. Publique, entre guillemets, okay. Enfin, avec des frais de scolarité qui ne sont pas de 12 000 euros.
D'accord,
par an.
Ok.
Donc, c'était la moins chère.
12 000, t'es gentil. Hein.
Oui, 12 000, je suis gentil. Ça a bien changé entre temps.
Ouais.
Donc, okay. Voilà. Donc, c'est comme ça.
Et sortie d'IMT, qu'est-ce que tu... Ouais, je note pas. Alors, on va revenir peut-être dessus s'il y en a le temps. Je veux juste qu'on on ait du temps pour parler, parler de PAPS.
Oui, clairement.
Donc, tu sors d'IMT après 3 ans, diplôme d'ingénieur.
Sciences de gestion.
Sciences de gestion.
C'était l'école de commerce.
Une école d'ingénieur, mais en plus sur la gestion.
Ok, d'accord. Exactement.
Et tu, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'à ce moment-là, tu as une clarté sur ce que tu as envie de faire en... pour ta carrière, ou est-ce que tu suis un mouvement, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
Ok. Après, du coup, il faut savoir qu'au cours de mon parcours donc à l'IMT, donc l'Institut Multilingue Business School, donc école de commerce, donc toutes les sciences de gestion, donc c'est vraiment très large, finance, marketing
business school,
classique, mais après, nous, on avait la particularité d'avoir beaucoup d'IT, donc beaucoup de tech dans notre programme, parce qu'on était sur le même campus que Télécom Sud Paris, et donc là, ben, c'est tout de suite l'immersion dans le monde de l'IT. Donc beaucoup de projets avec des ingénieurs. Et d'ailleurs, ma dernière année d'école, j'ai fait une majeure en ingénierie des systèmes d'information.
D'accord.
Parce que c'était enfin l'occasion pour moi d'aller vers de l'IT un peu plus deep et de pouvoir vraiment être sur une majeure commune avec des ingénieurs. Okay. Là, j'ai fait ma majeure avec des ingénieurs dans des Télécom de Paris. Donc ma meilleure année de mon parcours scolaire, parce que j'étais avec des gens vraiment qui en voulaient, super pragmatiques, c'était très concret, super intéressant et un bon mix de... du management, de l'IT, c'était génial. Vraiment, meilleure année de mon parcours académique. Et entre ma deuxième et ma troisième année d'école, j'ai fait un break d'un an où j'ai fait une année de césure.
D'accord.
Donc avant même de sortir aussi d'école, j'avais déjà eu des expériences professionnelles plus ou moins longues, essentiellement dans le conseil.
T'as fait un an de césure en consulting.
Exactement, en consulting. D'accord. J'étais dans la structure conseil de Thales.
Thales
qui fait des systèmes d'information critique, systèmes de signalisation, des trains, etc. Et du coup, moi, j'étais dans la structure business transformation, donc qui est du consulting. En fait, c'est marrant parce qu'ils ont créé une structure conseil dans Thales parce que c'est tellement grand que ça permettait de servir de façon transverse toutes les entités de Thales et accompagner toutes les entités au lieu de tout de suite avoir des consultants de l'extérieur. Donc, c'est du consulting en interne.
Je suis en train de penser à un prof que j'ai eu à l'ESCP qui était Arnaud... Cette BU-là, je crois qu'elle est devenue Business Transformation après, dans Thales.
Exactement, et ça a été racheté par GFI Transformation après.
Ok, d'accord.
Mais voilà, mais après,
j'ai pas eu le moment du rachat, mais j'ai eu un prof qui était
directeur
de ce truc-là. J'oublie son nom, Arnaud quelque chose, c'est pas grave.
Donc, ouais, super cabinet, enfin, c'était comme un cabinet au sein de Thales, 50 personnes, et donc on avait 60% peut-être de nos missions qui étaient pour Thales et 40% autres.
Okay.
Ministère Finance, X autres entreprises. Et du coup, donc là, c'était vraiment ma première vraie expérience professionnelle où j'ai travaillé sur, d'une part, tout ce qui était mis en place des services partagés de Thales.
D'accord.
C'était à une époque où les structures commençaient à se transformer vraiment. Mmh. On se dit, faut optimiser, faut créer des synergies. On casse tous les silos dans les groupes, avec plein d'entités, et on crée des services partagés qui vont venir servir.
Exactement.
Ça, c'est un de mes premiers projets. Et deuxième projet, il fallait qu'on mette en place le système d'information des achats du groupe.
D'accord.
Je pense qu'ils avaient des ERP historiquement. Et là, il fallait casser tout et créer l'ERP achat du groupe Thales global. Et ça, c'était cool, parce que du coup, j'ai pu faire tout le projet. Là, c'était mon premier vrai projet IT.
Sur la partie fonctionnelle.
Tout. J'ai fait du design, toute la partie développement, le testing, et j'allais former les filiales.
Donc la conduite du changement.
Exactement, toute la conduite du changement.
D'accord.
Onboarder les gens, et un an. Donc c'était vraiment génial comme projet. Donc en sortant d'école, j'avais un peu une idée, me disant, le consulting, ça peut être un bon créneau pour moi, un bon tremplin, on va dire ça comme ça. Et après, le choix de l'entreprise, le choix de l'entreprise, comment c'est venu?
Tu vas directement. Alors quand tu reprends là, tu finis ta césure, tu reprends ta dernière année.
Exactement, dernière année.
Tu vas chez Y directement?
Non. Oui, directement, oui. Mais après un petit break.
Un break de repos ou un break du travail?
Non, un break de j'avais pas le choix. Okay. Un break de. Un break de, parce qu'en fait, EY, on faisait beaucoup de. Les recrutements se font généralement au début d'année pour une rentrée, c'est comme à l'école, on rentre en septembre. Ouais. Donc quand j'ai été prise en février, donc j'avais signé, et il fallait rester jusqu'en septembre pour démarrer. L'école s'était terminée juste avant. Ouais. Donc voilà, donc c'est comme ça. Et après, peut-être pour revenir sur EY et comment et pourquoi EY, en dernière année d'école, on avait beaucoup de partenaires de cabinet, de
qui seniors, venaient qui venaient donner des cours.
Et pour nous, on a vu passer Deloitte, Price, EY, et mes deux profs, entre guillemets, enfin,
de EY. Les partenaires d'EY étaient plus sympas.
Et, non, en fait, ils étaient trop charismatiques. Après, ce n'est pas les partenaires avec qui j'ai bossé. Et d'ailleurs, ce n'était même pas mes partenaires préférés à la fin. Mais c'était quand même assez incroyable. Je trouvais qu'ils étaient hyper perspicaces. Okay. Le cours était dynamique. Et c'était fluide, en fait.
Ils ont bien vendu.
Ils m'ont bien vendu la chose. Et du coup, moi, après, naturellement, il y a des plans de forums de recrutement post-école. Et donc, il y avait EY qui était sur un des stands. Et c'est comme ça que j'ai postulé, que c'est comme ça que j'ai fait tout l'assessment center.
D'accord.
L'assessment, on va dire ça comme ça. Donc, le process d'entretien pour rejoindre en tant que dans les équipes IT du coup d'EY.
Quand tu dis la moyenne d'âge est un peu plus élevée que ceux qui sont intéressés par ça, mais il y a des gens qui vont écouter et qui vont être intéressés par ce qu'elle dit. Assessment Center, c'est des groupes d'entretien.
Oui.
Exactement. C'est vous venez à plusieurs et
on
teste, on vous dit pas vraiment ce qu'on teste, mais on vous fait interagir et à la fin, le process continue avec des entretiens. Et à la fin, on choisit quelqu'un, plutôt on élimine certains.
Exactement.
Ok.
Oui, c'est ça. Donc là, c'est exactement ça. Donc l'assessment center, c'est vraiment une journée de on passe. Enfin, avant, je suis arrivée chez EY à 8h, j'en suis sortie à 20h. Donc 8h, on arrive, test mémo technique, machin, test de logique ou je ne sais quoi, et beaucoup de maths dedans, quelques maths. Test d'anglais, entretien en groupe pour voir un peu comment les gens interagissent, comment, voilà. Test en groupe que j'ai, je ne suis même pas sûre d'avoir très bien réussi. Parce que je ne suis pas sûre, je ne suis pas toujours celle qui prend la parole quand il y a du monde. J'écoute beaucoup, je vais intervenir, pas pour raconter trop ma vie, non, juste sur des choses très spécifiques. Donc pour moi, ce n'était pas non plus la meilleure partie. Mmh. Entretien individuel avec un senior consultant, un senior manager, dépendamment du planning. Et après, en milieu de journée, donc il y a une partie des gens qui disparaissent. Donc, on ne sait pas, un peu on de est, baguette magique et il y a 5 personnes qui restent.
C'est Squid Games.
Mais c'est marrant, ils le font super bien parce qu'il y a certains qui passent par une porte, une autre, d'autres par d'autres portes. Mais à un moment, tu vois qu'il nous manque des gens. Donc voilà, on sait plus. Mais je trouve qu'ils le gèrent bien. Mais du coup, après l'après-midi, maintenant, si tu passes l'étape, étude de cas.
Ok.
Assez intéressante aussi, où là, tu passes 2 heures de réflexion, 2 heures de présentation. Et ils te donnent une étude assez, c'est assez costaud. Que tu l'auras jamais fini.
D'accord.
Mais je pense qu'ils veulent
voir comment est ton raisonnement.
Voilà, exactement. Et le cabinet, je pense que c'est ça. Il y en a qui vont faire du quick and dirty, il y en a qui vont faire l'extra mile pour faire tout très bien, donc qui vont travailler plus. Ça la permet de voir. Et donc, c'était un super assessment center, super expérience. C'était mon seul entretien. Je l'ai eu, puis je me suis arrêtée. Je n'ai pas cherché autre chose.
D'accord.
Et après, pause de 7 mois.
Est-ce que ce process d'entretien, je fais un gros jump.
Ouais.
Est-ce que ça t'a inspiré pour des entretiens chez PAPS?
Alors, ça m'inspirera plus tard chez PAPS.
D'accord.
Je pense qu'à un moment chez PAPS, on y allait dans les recrutements en tout cas, c'était. Je vais le dire plutôt différemment. Les études de cas sont arrivées un peu tardivement.
D'accord.
Donc on commence à en faire peut-être depuis 1 an et demi. Parce qu'à un moment, on a compris qu'il fallait qu'on deep dive un peu plus au-delà d'entendre le storytelling des gens, les CV, parce que c'est intéressant, mais d'avoir quelque chose de super concret mis en situation et la personne réagit, on voit.
Bien sûr.
Donc ça, c'est arrivé plus tard. Donc, c'est pas vraiment venu de moi. Enfin, je pense que c'est les RH, c'est tout le monde. À un moment, on a compris qu'il fallait qu'on teste un peu plus les gens et qu'on voit les raisonnements, on voit comment les gens se débrouillent, on voit est-ce que les gens vont faire l'exercice, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas faire l'exercice. Ça fait du filtre, etc., etc. Donc, c'est arrivé un peu plus tard, ce style de recrutement-là chez PAPS, plus tard, récemment, 1 an et demi, 2.
Ok.
Oui.
C'est hyper pas évident parce que il y a toujours comment... Il faut qu'on définisse ce qu'on veut aller chercher chez le client, chez le candidat, en fonction du rôle qu'il va venir jouer dans l'organisation. Est-ce que c'est au marketing, est-ce que c'est en finance,
c'est compagnie.
Et tu ne vas pas chercher la même créativité chez quelqu'un en marketing que tu cherches en finance.
Exactement.
Donc, comment est-ce que tu crées ton étude de cas et comment est-ce que ça sera dirigé vis-à-vis de
tel poste.
Okay.
C'est ça. Okay. Exactement ça.
Et donc, EY, tu passes 7 ans.
Oui, un peu moins, ouais, 6 ans.
6 ans, ans et quelques. Je comprends que tu es allée au Canada à un moment donné.
À un moment,
c'est
oui.
ça Avec
oui.
EY toujours.
Avec EY toujours.
C'était quoi une mobilité interne? Tu voulais aller découvrir le Canada?
Alors, ce n'était pas le Canada en soi, le projet de
c'était
base.
C'était Québec, c'est ça? Non, pardon.
Ah, non, c'était, projet, c'était, ouais, pas c'était le Canada, Canada mais ce n'était pas le, le pays en soi.
D'accord. Enfin, tu voulais ouais. bouger de France.
Oui, c'est ça. Alors, non, c'était pas je vais y venir parce que okay. du coup, donc EY, 6 ans, un peu plus de 6 ans, donc dans les équipes advisory, donc IT. Où, enfin, je faisais de l'audit, alors du conseil d'audit, dépendamment des périodes.
Audit IT du coup.
Audit IT du coup, okay. donc expert IT sur des missions de certification de compte, ouais. où là c'était vraiment de l'audit informatique pur, enfin, des systèmes, des bases de données, des serveurs, vraiment toutes les couches d'un système. Et l'idée étant de dire, ben, on donne l'assurance sur l'intégrité des infos que les systèmes manipulent. C'était purement ça. Et de l'autre côté, ben, la casquette conseil, c'est de dire, ben, je travaille sur des projets sur lesquels on accompagnait les entreprises à travailler sur leur modèle de gouvernance AS, donc IT, réorganisation IT. Un exemple concret, une entreprise qui va venir mettre un gros système d'information qui va gérer le cargo, par exemple, partout dans le monde. C'est des systèmes très lourds et très stratégiques pour l'activité, c'est le cœur de l'activité. Donc ça, c'est un de mes projets phares de conseil pour lesquels on accompagnait l'entreprise, surtout les différentes parties, tous les autres parties à communiquer. Okay. Parce que le produit n'était pas correctement designé, les gens ne se comprenaient pas. Nous, d'un point de vue externe, on venait accompagner dans le modèle de gouvernance, d'organisation IT.
Ce qu'on appelle communément la PMO.
Alors, ce n'était pas vraiment de la PMO.
D'accord.
Nous, on venait vraiment avec une casquette vraiment d'IT. On pouvait vraiment même donner notre avis sur la robustesse de la solution.
D'accord.
Il y avait aussi une partie très technique de test de performance, pourquoi le système crash, pourquoi on a des bugs, pourquoi. Et pourquoi quand on passe des choses en prod, ça crache, etc. Parce que, okay. Et ça se décline beaucoup par des petites failles sur des procédures de comment on met en place le système, comment on le design, comment on le développe, etc.
Okay.
Donc voilà, après, donc c'était ça.
Ça marche, donc le Canada.
Conseil audit, et après le Canada. Alors le Canada, c'était une mobilité interne. Donc chez EY, il y avait un programme qui s'appelait le Global New Horizon, qui permettait à des gens, donc l'idée c'était eux de promouvoir les talents du groupe et de dire pour les personnes, pour les talents qu'ils veulent projeter dans le groupe, ils les envoient en mobilité dans d'autres pays.
Okay.
D'une part, ils vont représenter le pays, donc c'est une vitrine du pays, et d'autre part, ils vont venir avec un peu des bonnes pratiques qu'ils vont ramener du groupe en termes de performance, d'organisation, pas vraiment sur l'expertise, parce que bon, l'expertise, mais pourquoi pas, d'autres choses, mais plutôt sur de la performance, de la culture. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, je pense, au bout de 4 ans chez EY. Et ça, je voulais le faire. Donc dès que je suis rentrée chez EY, je savais que je voulais faire cette mobilité, peu importe où c'était, je voulais faire la mobilité. Après, il y avait des conditions.
Okay.
Donc au bout de 2 ans, tu ne peux pas le faire les 2 premières années, parce qu'il faut réussir à prouver les 2 premières années, je n'ai pas pu faire. La 3e année, je voulais postuler, puis on m'a dit, on craint que tu ne seras pas prise parce que tu n'as pas été réité 4. Et là, j'y viens parce que, comme je disais tout à l'heure, on rentre en promo, chez EY, c'est un peu comme l'école, on est rated de 1 à 5 tous les ans, et des classements, premier de la classe, deuxième.
Ah, rated, ok,
oui, on était classés, du rating du 1 à 5. Et en tant que senior, on capait le rating à 4, on ne pouvait pas dépasser 4, parce qu'on jugeait qu'on ne pouvait pas être 5 non plus, on n'a pas assez d'expérience. Donc, en une année de senior 1, donc de 3 ans de conseil audit, j'étais rated que 3, et pourtant, je pense que j'avais passé une bonne année. Et du coup, la réponse que mon associé m'avait donnée, même si ça passe une super belle année, t'es pas rated 4, on craint que ça bloque. Très bien, j'étais rated très bien historiquement, une année où voilà. Du coup, je me suis dit, je fais mon année de senior 2, ou de 4 ans de consulting, en me disant, je suis rated 4 forcément. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle mon parrain, bonjour, qu'est-ce que je dois faire de plus pour être rated 4? C'est quoi l'extra mile que vous voulez? Il me dit, écoute, tu travailles très bien, c'est connu, fais le savoir, tu le fais pas assez savoir. Je sais pas comment ça. Il fait le savoir. Parce que tu fais toi ta pub de ce que tu sais faire. Et ça, moi, je sais pas faire.
Dans l'entreprise, on ne voit que les basiliques.
Comment?
Tout le monde, il y a un podcast génial qui s'appelle Les règles du jeu.
D'accord.
Et je crois que la 4e règle du jeu, c'est dans l'entreprise, on ne voit que les basiliques. C'est-à-dire que si tu ne montres pas ce que tu fais, on ne le voit
exactement,
pas.
Exactement. Et c'est ça que mon parrain m'a dit. Fais le savoir. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, essaie de t'investir sur la vie du cabinet.
Okay.
Donc, bosser très bien, c'est très bien, mais il faut aussi que les gens voient que tu es committed dans la vie du cabinet. C'est-à-dire, le cabinet, c'est un peu. Alors, parce que le rythme est très dur, parce que c'est très difficile, il faut pouvoir faire beaucoup d'animations pour garder les jeunes, sinon on les perd. Donc on réfléchit vraiment à tout ce qui est possible. Enfin, limite mes seniors, enfin, moi je leur donnais des tout, je les emmenais dans des restos trop bien, juste pour qu'ils restent. Qu'est-ce que vous voulez, reste au gastro, on y va. Restez, enfin partez pas, parce qu'une fois que les gens sont là, il faut les bridger, il faut qu'ils restent. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ils me disaient, bah, investis-toi dans la vie du cabinet. Okay. Et donc oui, c'était pas à moi d'organiser les soirées, enfin, flemme, je ne voulais ouais. pas, c'était pas mon truc. En dehors du travail, j'organise des trucs au travail long, où il m'a dit, bah, réfléchis, contribue à quelque chose dans le cabinet. Donc c'est là que je suis allée travailler sur un projet d'innovation en interne, vraiment un POC, proof of concept, sur de la RPA, du Robot Process Automation. Et on dit, bah, en audit, l'audit, il y a un côté assez rébarbatif, où voilà, les gens ont l'impression que ça fait. Donc on se dit, du coup j'ai travaillé, j'ai pris un peu le lead sur ce truc-là. Donc j'étais le lead en France de RPA sur l'audit et je travaillais avec X autres pays où on réfléchissait à comment robotiser. Et donc j'ai même fait des POC avec une partie du lab qui était en Tunisie et on développait vraiment enfin, des robots
pour bien tester. Sur UiPath
alors, non, en réalité, alors, la technologie sur laquelle ils développaient, ça moi je ne sais pas. D'accord. Par contre, je leur spécifiais ce que je voulais que le robot fasse.
Créer les parcours exactement. Et après derrière...
Exactement. Et ça, on le faisait sur les missions d'audit où on savait qu'on avait encore X années à les faire pour lesquelles on a assez de données de base bah, qu'on injectait dans le robot pour pouvoir... Voilà. Okay. Donc ça, c'est une des choses que j'ai faites et voilà. Et c'est comme ça que bah, l'année-là, j'ai été 4. Donc génial, j'étais contente. Je dépose mon dossier. Et du coup, pour cette mobilité-là, il fallait faire une business case. Donc, c'est-à-dire, bah, sur les 4 ans que tu as passé, maintenant, il faut que tu construises une business case pour dire, bah, si tu pars, c'est pas du tourisme, en fait. Si tu pars parce que tu commences à avoir une expertise sur un secteur. Et comme j'avais passé, à l'époque, déjà 4 ans sur Total, donc Total Agricole, Total Énergie, et en audit chez Total, où j'avais vraiment vu un peu toutes les filiales, enfin, exploration, production, raffinage, chimie, toute la partie commerciale, la holding, etc., et j'avais fait beaucoup d'énergie, vraiment EDF, Énergie Nouvelle, Areva. J'avais fait beaucoup d'énergie oil and gas. Donc là, j'ai fait ma use case autour de l'énergie.
D'accord.
Donc j'avais le choix de me retrouver quelque part au Moyen-Orient ou au Canada, dans les options. Puis voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Calgary. Parce que Calgary, c'est une petite ville à l'ouest du Canada qui est beaucoup portée par le oil and gas. Et donc voilà, je pense que 80% des entreprises travaillent sur le oil and gas à Calgary. Okay. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une toute petite ville à l'ouest du Canada et en mobilité avec EY.
Tu y passes quoi, un an ?
Même pas. Okay. Je n'ai pas passé plus de 4 mois. C'est vraiment des courtes mobilités qu'on fait en dehors de nos... Parce que du coup, on ne peut pas partir longtemps.
D'accord.
Parce que c'est vraiment quand on finit la saison d'audit.
C'est en dehors de la saison,
exactement.
D'accord. Okay,
donc 4 mois de mobilité... où c'est Paris qui est toujours, enfin qui paye toujours ton salaire, le bureau d'accueil te paye ton logement, voilà. Vraiment un truc sharing entre les deux entre les deux bureaux des deux pays. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette petite parenthèse, enfin Canada et après retour à Paris où voilà, je suis allée vers jusqu'au
cap de. Ouais. Avec ton recul, tu penses que tu aurais pu bosser et être heureuse ailleurs qu'en cabinet?
Alors oui.
À cette époque,
Bah oui, franchement, j'en étais toujours convaincue. Okay. Que oui, cabinet, ça me convenait très bien, mais je pouvais être aussi dans quelque chose de plus corporate, une vraie entreprise.
Parce que je pose la question, parce que, alors je vois beaucoup de têtes de consultants.
Ouais.
Suzanne, je ne t'ai pas oublié, même toi, d'auditrice chez Deloitte. Et c'est un peu un mindset, tu vois. C'est j'aime la compétition, je vais m'ennuyer dans un environnement où chaque 3 ans, ou même pas chaque 3 ans, chaque fin d'année, on va pas me demander ton évaluation. Est-ce que tu as été bon? Est-ce que tu es 3? Est-ce que tu es 4? Tu as une petite augmentation, même si tu as de sentir qu'il y a une progression.
Oui.
Et je sais que beaucoup d'entre nous, et peut-être que moi y compris, je suis encore en cabinet.
Ouais.
Donc peut-être que je ne suis encore soigné de ce syndrome de bon élève.
Ouais.
Et c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que tu penses que ça te. Est-ce que c'est quelque chose qui était marquant pour toi de te dire je suis dans cet environnement-là où je me vois progresser chaque année, où on me dit, on me donne un peu la carotte, bravo, t'as réussi, ou est-ce que tu t'en fous totalement de ça et que tu aurais pu bosser classiquement?
Oui, je pense que j'aurais pu bosser ailleurs. Enfin, après, en réalité, moi, je trouve pas les ratings et les récompenses ou le bravo, enfin, je suis pas très flattée par ça.
D'accord.
Mais ça, c'est aussi peut-être depuis mon enfance. Tout de suite, à chaque fois que je ramenais mes résultats, qui étaient très bons, mon frère, il était juste OK. Enfin,
c'est
il faut persévérer, c'est normal. Moi, je disais, mais pourquoi il ne dit pas que c'est trop bien? C'est toujours, il faut persévérer. Donc, du coup, il n'y avait pas de sujet. Donc, moi, faire très bien, OK, fine. Enfin, il n'y a pas, donc oui, donc non. Ce n'était pas les ratings qui me drivaient, c'était la mission.
Okay.
La richesse des missions, la diversité, de changer de mission ou de même être, 10 missions en parallèle, en tout cas quand tu es en grade de manager, tu commences à avoir cette diversité.
Multitasking, d'accord.
Exactement. De faire le matin du luxe chez le VMH, le soir aller chez McDonald's, l'après-midi aller chez Total. Enfin, je veux dire, j'adorais ça.
Excellent, bien sûr.
J'adorais ça. Donc oui, après, je ne me suis jamais dit, enfin, je savais que je pouvais être aussi en entreprise. Enfin, j'avais pas de doute là-dessus. Enfin, okay. J'avais pas de doute là-dessus. Je savais juste que j'avais besoin, par contre, en entreprise, d'être sur un poste qui me permettrait de toucher à beaucoup de choses. Un poste très spécifique dans un département, je pense que ça peut vite m'ennuyer.
D'accord. Ouais. Okay. Et donc, 2 ans plus tard, donc oui. un an et demi même plus tard, après ton retour du Canada,
oui.
De ce que je sais, je disclose, c'est pas grave, tu l'as déjà dit, c'est public, tu as une fatigue d'EY, tu as une fatigue un peu de cet environnement-là, oui. Des grands immeubles de la Défense, de la Tour First, de l'Esplanade de la Défense, et tu décides de rentrer à Dakar sans rien, tu démissionnes, tu pars. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand tu fais ce choix?
Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que c'est comme tu as dit, c'était de la fatigue. Okay. Et le truc, c'est que je ne voyais pas d'issue. Parce que je me disais, en fait, si je reste dedans, je vais vouloir faire des missions à gauche, à droite. Parce que je bougeais aussi beaucoup dans le cadre de mes missions, un peu en Afrique de l'Ouest. J'allais un peu partout, enfin, en Europe de l'Ouest, parfois au nord des US, bah, de l'Amérique, pardon. Donc, je bougeais. Et aussi, mes années étaient très rythmées. Enfin, je n'avais pas des vraies périodes où c'était creux. Je me disais, soit je reste dedans et je vais toujours vouloir faire de travailler beaucoup et donc je vais être crevée. Et je savais que je ne pouvais pas rester dedans et baisser les bras et ne pas trop travailler. Ouais. Donc pour moi, c'était le bon moment de partir parce que je sentais que j'étais trop crevée.
Tu dis ça parce que c'est il y a des gens qui restent en cabinet
oui,
qui ne réduisent leur cadence.
Oui, oui.
Ce n'est pas ton profil de te
exactement.
Dire je suis quelque part et tout le monde me perçoit comme ok, elle a laissé tomber, elle ne pose plus, donc tu préférais partir.
Mais après, je pense que peut-être que là-dessus, c'était il me manquait de l'expérience. Je pense que si je retournais en cabinet, un jour dans ma vie, j'aurais l'expérience qui me permettrait de savoir là où mettre mon énergie, là où quand tu fais 70%, ça suffit. Okay. L'extra mile de 30%, là, c'est pas important. Mmh. Et ça, pourtant, mes partenaires me le disaient. Mais ça, je pense que c'est beaucoup un défaut des femmes aussi, de vouloir, en tout cas, d'être assez perfectionnée. Et les partenaires nous le disaient, on voit beaucoup des femmes managers trop bien, vous finissez par épuiser parce qu'il y a toujours cet extra effort que vous voulez faire. Et à un moment, ils me disaient, tu sais, si tu fais ton rapport ou tes slides et que tu te dises là où tu veux mettre 100 000 euros, tu veux préciser le 100 000, 100, 108 euros, c'est pas grave, mais 100 000, nous, on porte la responsabilité de ta petite marge d'erreur. Donc faut voilà, mais après je pense que c'est de l'expérience. C'est l'expérience qui m'aurait permis de, si j'avais un peu plus d'expérience, de juste canaliser mon énergie là où c'était nécessaire et de mieux m'organiser.
C'est un super point et c'est surtout un super conseil. Je pense que c'est toujours un peu dur de savoir mettre son énergie au bon endroit. Enfin moi c'est I can relate actuellement. Moi je suis en consulting au sein d'une entreprise où tu as de la demande qui vient de partout. Parce que quand ton scope n'est pas très clair, tout le monde voit une compétence et se dit je peux en profiter,
exactement.
Je te demande quelque chose.
Exactement.
Souvent gentiment même d'ailleurs.
Ouais.
Et c'est à chaque fois, j'ai compris.
Oui.
Mais ce que tu me demandes, ça sera prêt pour dans 2 semaines parce que là actuellement il y a telle autre demande
exactement.
Qui est prioritaire.
Exactement.
Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est ok pour toi? Ils vont toujours vouloir insister et te dire ah non, finalement non, j'ai besoin de ça dans une semaine.
Plutôt,
mais je peux pas faire plus.
Exactement. Déjà lui, donc le savoir dire non et savoir toi donner ton agenda parce que ça c'est l'expérience qui parle et qui te permet de faire ça. Donc voilà, donc une année, je pense qu'après il y a eu un déclic aussi de ce départ. C'est à un moment, je me rappelle ma dernière mission. J'avais une mission qui était à Paris, une autre qui était à New York, et du coup j'étais à New York. En journée, je travaillais, donc c'est décalé par rapport à Paris. Et Paris, je travaillais à New York la nuit, un peu pour Paris, mais sans le dire, parce que pour moi, je trouvais que c'était pas trop top non plus de trop travailler. C'était pas, je me vantais pas de trop travailler. Donc quand je faisais mes réunions avec Paris le matin et qu'il était peut-être 5h ou 4h à New York, je leur disais pas vraiment. Un jour, quelqu'un m'a appelé, m'a dit mais non, mais la manière dont ton téléphone sonne, ça montre que tu es à l'étranger, t'es où? Ah, t'inquiète, je suis à New York. Attends, mais quelle heure à New York? Il est un peu tôt. Et un jour, il y a mon partenaire qui appelle un matin pour se plaindre de slides qu'il n'aurait pas aimé. Et là, je me suis dit, en fait, c'est trop. J'ai passé toute la nuit et toi, tu m'appelles pour
des
slides dont j'ai changé le template, il n'a pas aimé ça.
Le 8 jaune n'était pas le bon.
Donc là, je me suis dit, bon, c'est un partenaire que j'aimais beaucoup quand même, je l'aime beaucoup. Et là, j'ai dit non. C'est la goutte d'eau de trop. Et pour moi, c'était le moment de fatigue que je commençais à ressentir. Et à un moment, j'ai eu un arrêt maladie de 3 semaines. Et pour moi, arrêt maladie de 3 semaines, c'est une alerte. Mmh. Quand tu vas chez le médecin du travail qui te dit, je te mets 3 semaines. Enfin, ça, c'est pas... Il m'a dit 3 semaines, j'ai dit non, est-ce que je peux faire 2? Il m'a dit 4 semaines, j'ai dit non, je peux faire 4 semaines. Ça, c'est trop, un mauvais message. 3, c'est trop. Et quand j'ai fait 3 semaines et que je suis revenue, le premier jour, au bout de mes 3 semaines, boum, très mal à la tête. Et du coup, pour moi, c'était clair.
J'avais un truc,
je me suis dit, bon...
J'étais manager.
Okay. Là, j'étais manager. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé en janvier de partir. Et après, je suis partie qu'en juin.
Janvier 2020.
Et après, je suis partie qu'en juin. J'ai dû rester encore 6 mois avant de partir.
À cause du Covid ou vraiment?
Non, même pas. Au début, on ne voulait pas me laisser partir. Donc, j'ai mis 3 mois à convaincre pour qu'ils acceptent ma démission. Et après, j'ai dû faire un dernier projet qui était super bien. Quand PSA avait racheté Fiat, on avait tout un projet de...
Stellantis. Ouais.
Donc voilà, donc c'était super, super bien. Et donc voilà, dernier projet, donc départ juin 2020, du coup.
Donc tu pars de Paris, tu vas au Sénégal pour te reposer, en te disant que tu retournes à Paris après.
Je n'étais même pas encore partie, en réalité. Donc ce que j'avais décidé, c'est que je fais une pause, et je me repose quelques temps, je déménage, et après j'irai plus tard à Dakar. Et après, une fois à Dakar, je me poserai et je chercherai. Je regarderai.
Chercherai à Paris.
Non, à Dakar.
Tu t'avais décidé de rentrer.
Oui.
J'avais décidé de rentrer.
En partant, je me suis dit, je rentre, c'est l'occasion. Okay. Là, je vais retourner. Ça faisait 12 ans. Je vais voir la famille, voir ma grand-mère, voir mes parents. Donc c'était important de repartir. Donc le projet était clair. Je repartais. Vers quoi? Alors là, j'avais une petite idée de ce que je voulais faire. Parce que là, en partant du voyage, je me suis dit, je veux aller faire une mission publique. Je me suis dit, je veux sauver la société sénégalaise. Je vais aller travailler dans une agence de l'État où je vais aller sur une mission d'éducation, de santé ou quelque chose qui me drive en tout cas. Ou encore, agence de l'État. Okay. Ou encore, essayer de trouver le juste milieu entre quelque chose qui est public, mais avec de l'IT dedans. Donc je pensais beaucoup à l'agence de l'informatique de l'État. À un moment, je pensais aussi au ministère qui gère les Sénégalais de l'extérieur. Je me disais, il y avait vraiment une dimension très sociale. Et comme j'avais pas mal travaillé avec le secrétaire d'État qui s'occupait des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, à l'époque de Paris, où c'est lui qui gérait tous les étudiants sénégalais à l'étranger. D'accord. Et moi, j'étais dans une association qui travaillait qui poussait en tout cas les étudiants sénégalais à aller vers les grandes écoles. Donc je bossais beaucoup avec lui. Je me disais, lui, je pense que ça pourrait être bien. Donc voilà. Et j'aurais jamais eu l'occasion de lui en parler. Donc s'il écoute le podcast, il saura que j'ai pu travailler dans ses équipes à un moment.
J'espère.
Et voilà. Et donc la DIE, donc l'Agence de l'informatique de l'État, etc. Puis après, j'ai parlé aux gens et tout le monde m'a dit, mauvaise idée.
D'aller dans le public.
Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. La vélocité ne tira pas, le mindset ne tira pas, etc., etc. Je voulais faire un peu de forcing, puis finalement, j'ai fini par écouter ces gens-là qui avaient une expérience dans le public et qui me connaissent et qui savent que ça n'aurait pas matché.
Moi, j'ai fait du forcing et ça, vraiment.
Ah ben, dommage. Je retenterai plus tard. Okay. Donc voilà, donc c'est comme ça la transition. Mais là encore, j'étais pas encore au Sénégal. Donc on arrivera sur PAPS au moment que tu.
T'es rentré du coup. Ouais. Donc du coup, tu as posé tes bagages au Sénégal.
Oui.
Et là, tu parles avec ton ami.
Ouais, c'est légèrement différent. J'ai commencé PAPS à distance.
Ok. Aider, c'est ça pour l'instant.
Même pas. J'ai vraiment rejoint septembre 2020. Donc au final, à un moment, donc j'ai parlé avec notre CEO. Et donc, qui apprend que je suis partie de mon ancien cabinet.
EY,
voilà. Et qui me dit, j'ai appris, et si on discutait.
Okay.
Après, moi, PAPS, je connaissais, je suivais, je discutais même avec la cofondatrice de l'entreprise, sur X problématiques. Et donc, c'est là qu'il me dit, écoute, qu'est-ce que tu sais faire? Là, je lui décris ce que je sais faire, pour que lui puisse voir, est-ce que potentiellement, voilà. Je sais structurer, je sais organiser, je peux optimiser. J'ai fait de l'IT, donc j'ai une fibre tech. Je peux avoir un regard critique sur beaucoup de choses. Je peux challenger, je peux voir des dysfonctionnements, proposer des solutions. Et je peux faire des projets. Donc, voici ce que je sais faire.
Du conseil.
Exactement. Voici ce que je sais faire. Je ne sais pas quel nom on met dessus, mais ça, je peux faire. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je peux faire ça. Donc c'est là qu'il est revenu vers moi avec un peu un poste qui n'existait pas, un poste qui a été créé, de manager stratégie et performance pour la start-up. À un moment où on préparait un peu un autre virage de PAPS, Et donc là, peut-être, c'est l'occasion, peut-être là, je peux faire une parenthèse sur PAPS. Donc, nous, on est vraiment un acteur africain de transport logistique avec un cœur de métier très dernier kilomètre. On va dire vraiment la livraison du tout dernier kilomètre dans les villes, donc zone urbaine, périurbaine, l'intérieur de nos pays, dans nos régions. Et on va aller un cran plus loin maintenant en disant on veut, avec une présence régionale, interconnecter différents pays en Afrique de l'Ouest, donc favoriser l'échange. Et qui dit échange dit on transfère des choses, on transporte. Et donc nous, on va venir apporter des solutions de fret. Tu me diras solutions de fret traditionnelles, c'est pas révolutionnaire, mais avec à notre manière. Okay. En disant on peut gérer du corporate, nous on peut le facing corporate, on sait faire. L'agilité, on peut, parce qu'on est une start-up, on est agile. Et de l'innovation, on peut. Et on peut aussi adapter des solutions logistiques assez facilement aux entreprises, ce que, par exemple, d'autres grands logisticiens ne peuvent pas faire parce que les choses sont plus figées, plus rigides. Et c'est comme ça qu'on fait notre logistique aujourd'hui. Et on est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin aujourd'hui. Trois clusters, les trois principaux. Et l'idée, c'est de un peu consolider toute la zone ouest-africaine et nous positionner comme... Nous, on se voit comme un futur grand UPS africain. C'est vraiment ça la vision. Et voilà, c'est ça la vision de PAPS. Donc c'est comme ça, PAPS, que j'ai rejoint avec cette position de chargée de la stratégie de la performance pour la start-up à l'époque, où on n'avait qu'une filiale, où il n'y avait que le Sénégal, en 2020. Donc voilà.
Et concrètement, ça voulait dire quoi pour toi? C'est-à-dire que, alors il n'y a clairement pas de journée type, j'imagine. Oui. Mais c'était quoi ta lettre de mission? Qu'est-ce que tu devais réussir en tant que head of strategy?
Oui. Alors, qu'est-ce que je devais réussir? Donc, du coup, je disais qu'il y avait stratégie et performance dedans. Mm-hmm. Donc, une fois qu'on se dit... Parce que la stratégie, du coup, c'est vraiment main dans la main avec les fondateurs. Mm-hmm. Ils ont leur vision qu'il faut à un moment porter et comprendre. On définit ensemble les objectifs stratégiques. On décline tous les leviers si on dit... voici le virage qu'on veut prendre, voici le développement, la croissance qu'on veut atteindre, tous les leviers de développement. Et après, une fois qu'on dit ça de façon macro, maintenant, il faut le décliner dans les départements, il faut le décliner dans les opérations, il faut le décliner dans la manière d'adresser un marché, dans la manière de marketer, positionner son produit. Et donc, moi, c'était d'une part, sur ces sujets stratégiques qui peuvent être un peu high level, on va dire. Et après, une fois ça, on dit maintenant, il faut qu'on ait de la performance 360 degrés. Et qu'on se dise, il faut qu'au niveau de tous les départements, donc du sales, du marketing, de la finance, de la logistique pure, il faut qu'on définisse tous les axes qui nous permettent justement d'atteindre cette performance 360 et la finance à tous les niveaux. Donc c'était vraiment ça. Et ça concrètement, c'était ça mon rôle. Et concrètement, c'était vraiment d'être présent. Si tu veux qu'on fasse une petite pause.
Allons-y.
D'accord. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler avec tous les départements et de s'assurer que la direction que les départements prennent, ça va dans le sens de la stratégie, des orientations qu'on va avoir. Et on va être, nous, on était sur un mode très itératif, trimestre par trimestre. D'accord. On a des objectifs, chaque département en a, et il faut qu'on arrive
en OKR.
Donc objectifs qui résultent, et il faut qu'on les décline. Et les OKR vont venir porter les grands sujets de développement qui vont permettre de cocher les grands milestones de l'organisation. Et c'était ça. Donc ça m'a permis de vraiment mettre le nez partout dans l'organisation et de pouvoir, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on peut faire mieux, comment modifier, accompagner les gens. Parce que je n'étais pas actrice au final. Parce qu'il y avait des responsables de département. Donc l'idée, c'était un peu de fuel tous les départements pour que chacun arrive à atteindre ses objectifs. Okay. Et voilà. Et à la fin, il y avait du HR, je n'ai pas parlé du département HR. Parce que du coup, donc voilà, à l'époque, à Château, effectivement. Et donc c'était ça. Donc vraiment, et après, des grands projets stratégiques. Du coup, je le mettrai plutôt dans le volet partenariat, avec deux projets principaux que j'ai eu à faire pendant une année, je pense. Un des projets, c'était UPS, parce que du coup, maintenant, on représente UPS au Sénégal. Mm-hmm. On est Authorized Service Contractor. Et ça, c'était mon tout premier projet en arrivant. C'est d'accord. Vraiment faire toute la due diligence pendant un an pour devenir UPS. Donc, c'est,
Il y a eu la partie expansion aussi.
Après, il y a eu la partie expansion, exactement. Donc, UPS, d'une part... À un moment, on a réfléchi sur un projet de partenariat public-privé avec un acteur postal. Projet super intéressant, mais qui n'a pas abouti. Mais ça a permis de créer un peu d'ONS, je pense, sur le sujet et dire on est un acteur logistique, on est plus petit, on a le ministère de l'économie du plan qui est intéressé par nos projets. On peut réfléchir à un partenariat public-privé. Ça, c'est super intéressant aussi de bosser dessus. Et après, Et après, donc c'était ça. Après l'expansion. Et après l'expansion et la levée de fonds. Parce que du coup, ben, la levée de fonds, c'était un vecteur aussi pour cette expansion-là. Okay. Donc, il y avait vraiment pensé toute l'expansion, travailler avec les fondateurs sur où est-ce qu'on doit poser nos valises, comment expand, quelle timeline pour expand, comment on y va. Et si on lève des fonds, on l'a levé. Mm-hmm. On travaille surtout à la levée de fonds. Si on les lève, comment on absorbe les fonds, comment on les dépense, sur quoi est-ce qu'on les met. Donc, c'est vraiment travailler sur ces sujets, tous ces sujets-là qui rentraient dans la stratégie également.
Il y a eu, du coup, dans la période de la levée, il y a eu, on va dire, un emballement médiatique.
Oui.
qui était assez... enfin, beaucoup, mais c'était aussi à un moment donné où il y a eu un sommet sur les startups à Paris.
Exactement.
Avec le président de la République, avec Bamba qui avait été invité.
Exactement.
Comment on vit cet emballement médiatique-là parce qu'en même temps, étant aux opérations, en voyant souvent les difficultés à l'intérieur de la boîte, en même temps, en voyant comment c'est... tout le magnétisme et tout, comment les gens devaient, à ce moment-là, idéaliser ce que vous êtes en train de faire. Comment tu le vis de l'intérieur?
Ah, j'adore cette question-là. Mais après, comme tu sais, c'est exactement ce que tu dis. Parce qu'il y a le côté de l'extérieur, ça brille, c'est très bien. De l'intérieur, ça brille aussi, mais après, tout n'est pas parfait.
Il y a des difficultés, bien sûr.
Voilà, il y a des difficultés. Mais après, je pense que l'idée aussi, c'est qu'il fallait qu'on fasse les deux en parallèle. Il fallait qu'on se dise, on va créer de l'ONS là où on peut. On va aller faire un peu de... brand love, mais en tout cas repositionner le brand dans les grands esprits. On veut être entendu là où on doit être entendu. Quand il y a des décideurs, des chefs d'entreprise, il faut qu'on soit là. Quand il y a des investisseurs, il faut qu'on soit là, qu'on parle. Et du coup, ça, c'était le rôle de Bamba. Il le jouait parfaitement bien. Il le fait parfaitement bien. D'accord. Il est le meilleur ambassadeur avec Rocaille, les meilleurs ambassadeurs de la start-up. Et après, nous, derrière, c'était de dire, la contrepartie, mais il faut qu'on arrive à
meet expectations.
Exactement, exactement. Et ça, c'était du travail, c'était au quotidien, nos objectifs, fallait y aller vite, fallait que toute interaction avec un client soit bien, toute opération soit bien, il y a des incidents parfois, mais il faut qu'on puisse les gérer, parce que on a une vision, on vend une mission, les gens l'achètent, maintenant il faut pouvoir, comme tu dis, meet the expectation, voire même aller below expectation, above expectation, pardon. Et voilà, donc c'était ça. Mais du coup, effectivement, ça met un peu un coup de stress. Quand on met tous les spots, toute la lumière sur toi, ça peut faire un peu peur.
Bien sûr.
Mais il faut, fallait oser le faire, fallait oser en parler. Après, le côté très médiatique, c'était pas se lever. Où là, on pouvait. Et l'idée aussi, en médiatisant, on n'a pas essayé d'en faire trop non plus, mais c'était aussi de passer l'info, parce que passer cette info, c'est inspirer d'autres aussi. Qui peuvent dire, on est une start-up sénégalaise, on peut avoir levé un peu moins de 5 millions d'euros, d'autres peuvent aller chercher 5, 6 millions d'euros s'ils veulent. C'était aussi un peu démystifier ça et casser un peu la barrière et dire que c'est possible.
C'est un peu aussi, je le perçois comme ça, un moment de grâce où la force de la marque est forte et c'est un peu les portes du paradis sont ouvertes.
Oui.
Comment est-ce que j'arrive à recruter les meilleurs talents de cette période-là pour pouvoir.
Aussi. J'avoue que ça, c'est super important pour attirer des talents, parce que les gens, on rejoint beaucoup les entreprises pour les gens qu'on voit.
Ouais.
C'est un Bamba qu'on va rencontrer, qui inspire, qui est très sympathique, très intelligent, une Rocaille courageuse qu'on voit. C'est ça qui attire les gens à la fin de la journée. Donc ça, je pense que les RH ont vite compris, donc qu'il fallait qu'on pousse ça, et c'est ça qui permet d'attirer des talents, parce qu'à un moment, quand on lève des fonds, comme tu dis, il faut des talents, il faut les garder. Et après, il faut accélérer derrière, parce que maintenant, il faut y aller maintenant une fois qu'on lève les fonds.
Alors, next step, j'ai Bamba qui m'appelle. On avait déjà parlé un moment donné sur un autre sujet. Il me dit, j'ouvre Abidjan, est-ce que ça t'intéresse? Et il m'a rappelé quelques semaines après, il m'a dit, finalement, pas Abidjan, je crois qu'on s'était déjà parlé.
Possible.
Et il me dit, Penda y va. Et tout, il dit Pendava Abidjan. D'accord. Donc finalement, tu veux. Enfin, on discute pour le poste de Pendava Abidjan. Et je crois que peut-être à Dakar, je crois que c'est à ce moment qu'on se parle plus tôt.
D'accord.
Donc trop bien. Mais comment tu prends ces décisions-là, de te dire je viens à Abidjan, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle aventure, c'est total, tout est nouveau en fait.
Oui.
Je vais lancer Pops à Abidjan. Est-ce que c'est, du coup, forcément une excitation, une forte excitation, je pense. Comment tu le vis?
Alors, comment je le vis après. Enfin, il faut savoir que je prends des décisions très très vite.
Okay.
Je ne dirais pas que je suis très. Moi, je suis un peu spontanée. Donc, je ne suis pas posée trop longtemps à réfléchir. Est-ce que. Donc, à un moment, début 2022, Donc on lève les fonds, il faut qu'on restructure. L'expansion, le plan était là, on savait quel pays on ouvrait après quel autre pays. L'équipe ivoirienne existait déjà, il y avait déjà une petite équipe de à peu près 8-10 personnes.
Qui avaient commencé les opérations ?
Exactement, on avait commencé avec un seul client, Jamo, qui était vraiment notre tout premier client, qui nous a permis, Régis, Bamba et Hassan, qui nous ont permis vraiment de maîtriser le marché. Commencer par quelque chose, par un client. Donc à l'époque, un seul client jusqu'en fin 2021. On a démarré par un Orange en début 2022, un client, un de nos plus grands clients, principaux clients, investisseurs chez nous, donc Solatel pour le coup. Et donc c'était un peu un roll-out un peu évident en Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu nos deux clients phares. Et donc voilà, une réorganisation, Côte d'Ivoire, est-ce que ça te dit d'y aller ? J'étais déjà venue en Côte d'Ivoire en 2021, par émission PAPS une semaine. J'avais pas été non plus bluffée par la ville. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais pas fait grand-chose. J'avais pas vu grand-chose. Mais je me disais, mais il fait gris, on est en août, il pleut tout le temps. Et puis, je pense que les gens m'ont tellement parlé d'Abidjan qu'en arrivant, je me suis dit, OK. Donc, je savais que c'était biaisé. Puis, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'y vais pour la mission. Je ne suis pas allée pour Abidjan ou quoi que ce soit. Donc, niveau vie, entre guillemets, vie à Abidjan, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'étais venue que pour la mission, pour quelques temps. Je me suis dit, j'y vais pour pour 9 mois, on verra. On est en mars, décembre, peut-être qu'il peut y avoir un ramp-up qui peut permettre à quelqu'un d'autre de prendre. C'était pas rien de ficelé. On y va et voilà. Après, la décision était facile parce que j'avais de la famille ici. Okay. Donc ma tante et mon oncle étaient là, donc je savais que si je viens, je vais chez eux, je suis dans un bon environnement, ils sont super bienveillants, et mes jours se passeraient bien, séjour se passerait bien. Donc c'était un peu facile, je fais mes deux valises et je viens. Donc pour quelques temps, ça a duré bientôt 2 ans. Donc voilà, c'est comme ça que je reprends la filiale où il n'y avait pas vraiment de général manager à l'époque. On essayait en rotation un peu, de venir à tour de rôle, voir, mais ça marchait pas. Il fallait qu'on développe l'équipe, il fallait qu'on puisse vraiment asseoir notre position ici. C'est un nouveau marché, il fallait qu'on le fasse bien. Et voilà, et on est toujours en développement, c'est toujours pas fini. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Mais voilà, on a fait un bout de chemin un peu entre il y a 2 ans et maintenant.
Et on s'en rend pas compte, on est quasiment à 1 heure d'épisode. C'est fou. On est à 58 minutes. Je ne veux pas que l'épisode soit trop long, sinon je vais le couper en deux. On pourra discuter continuer derrière. Mais c'est quoi tes grands apprentissages depuis que tu es arrivé? Si tu pouvais reparler à Penda en 2021, du coup.
2021, oui.
C'est ça. Quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu referais différemment?
D'accord. Qu'est-ce que je ferais différemment? Donc, si je devais revenir à 2022, du coup, quand je vais arriver.
Tu ne reviens pas, hein. Tu vas parler à Penda.
Oui, je sais. Non, mais je veux juste mettre le curseur, c'est quand ? Abidjan ?
Abidjan.
Abidjan. Ah oui. Alors, si je devais refaire. Si je devais me dire quelque chose, c'est tout de suite, structure ta finance, mais très bien. Parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu gérer, c'est quelque chose que j'ai voulu co-gérer avec le head of finance à l'époque au Sénégal. Et du coup, je pense que. Tout de suite, on n'a pas eu une finance transparente, des états clairs qui permettent une lecture claire de l'organisation.
Elle était restée au Sénégal.
Alors, elle était restée là-bas. Il n'y avait pas personne, il n'y avait pas encore. J'ai eu une RAF / DAF que 9 mois plus tard. Donc, dès le début, pour moi, donc, si je devais refaire, c'est bien, gère ta comptabilité. C'est comme ça que tu lis une entreprise. Sors des indicateurs financiers très clairement, mets les outils finance. Parce que si nous, on est très outils, mais beaucoup aussi sur la logistique. Les outils sur la finance, etc., ne sont pas encore vraiment, en tout cas sur la filiale. Au Sénégal, ils sont un peu plus avancés là-dessus. Mais voilà, donc ça, clairement, bref, ça peut être perfectible. Donc ça, c'est des choses que j'aurais mises en place dès le début, très clairement, pour optimiser, pour être plus efficient sur plein de sujets. Donc ça, d'une part. Et après, d'autre part... Oui, dis-moi.
Tu continues. Oui. Tu le dis parce que c'est une activité qui se pilote à la semaine. C'est ça. C'est chaque semaine, il faut aller regarder ton ratio de gains sur paire, avoir tous tes ratios à la semaine pour pouvoir faire les resserrages quand il faudra, c'est ça?
Oui, c'est ça. Okay. En fait, ouais, c'est vraiment une activité où il faut vraiment... C'est une lutte économique, il faut les piloter très bien. Ces coûts, il faut les piloter limite à la semaine, à la journée, parce qu'on est sur une activité où... Parce que, voilà, après, tout à l'heure, peut-être dans la présentation, je n'ai pas parlé non plus du business model, mais nous, on va travailler avec beaucoup de partenaires donc qui nous fournissent les véhicules. Tous nos camions, enfin, tous nos véhicules qu'on utilise, c'est des partenaires. Donc, il y a des partenaires avec qui on va réussir à être sur des délais de paiement plus longs. Donc, cela, ça va. On va être sur des short-term payments, donc en cash-out, enfin, ça fait en working capital, ça peut être un working capital très élevé. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir voir très vite pour optimiser.
La trésorerie.
Exactement, pour la trésorerie. Et pour même pour la trésorerie, pour les coûts opérationnels, il faut pouvoir les voir très vite. Autrement, on peut avoir des mauvaises surprises et découvrir en fait qu'on aurait juste pu optimiser, faire des choses tellement différemment avant de pouvoir et d'économiser, d'être plus efficient sur nos finances. Okay. Donc c'est surtout ça, c'est l'activité, le type de partenaire qu'on a, les délais de paiement de nos fournisseurs là qui peuvent parfois être un peu trop courts et donc du fonds de roulement un besoin de fonds de roulement important.
Type de partenaire, tu entends tes opérations, aussi tes opérations, donc les livreurs,
oui, aussi, tout ça aussi. Aussi, encore les livreurs, ils sont sur un cycle de un mois.
Donc, ça tourne à un mois.
Voilà, un mois de commission. Non, alors un mois,
ok, ils perçoivent leur commission. Je parle en termes d'opération même.
En termes d'opération, mais quotidiennement,
En termes RH, est-ce que tu arrives à les tenir longtemps? Il y a la concurrence, il y a Glovo, il y a d'autres
Alors,
là, je te parle encore de la petite livraison, auto.
Oui. Donc, petite livraison, donc colis-courrier. Oui, le turnover est élevé, mais maintenant, on commence à bien stabiliser la chose. Enfin, vraiment, il y a des livreurs qui sont là depuis bien plus d'un an.
D'accord.
Bien sûr, dès qu'il y a un nouvel acteur qui arrive, tu sens que beaucoup vont partir et reviennent. Quand Yonko est venu, beaucoup sont partis et ils sont vite revenus. Parce que nous, dans notre activité, ce qu'on leur vend, c'est surtout la récurrence. Bah, avec nous, l'activité est là, donc il y a de la récurrence de delivery. Donc si vous travaillez sérieusement, vous allez bien. Aujourd'hui, on a des livreurs qui gagnent 500 000 par mois. Ils livrent je ne sais combien de colis. 500 000 par mois, ce qui est génial, je pense. Et c'est ça qu'on veut. Nous, le statement de base, c'était de dire on veut aider les indépendants à grandir donc, par leur flotte et tous les livreurs un peu... démocratiser un peu la livraison, les professionnaliser et leur donner du volume récurrent pour qu'ils bossent. Et ça, je pense qu'on commence à bien le réussir, voire on le réussit. Donc oui, on commence à maintenir nos livreurs-là et les perdre. Moi, on en perd toujours, mais le turnover est assez correct.
Si je récapitule, tu as dit finance, gestion des partenaires.
Oui.
Il y avait un troisième.
Alors, le troisième point, ça peut être le volet RH.
D'accord.
Oui. C'est-à-dire, en apprentissage, je pense que c'est tout de suite important de... d'avoir des key people qui vont être des leviers. Donc, il n'en faut pas que un ou deux, trois, quatre, qui ont vraiment les leviers, ambassadeurs, qui vont diffuser toutes les bonnes ondes dans l'organisation, représenter la direction et maintenir les équipes. Et des gens de bonne moralité, des gens qui en veulent. Parce que l'esprit start-up aussi, c'est pas une entreprise classique où tout roule, mais... Tout n'est pas carré, donc il faut créer ce framework-là. Donc, il faut des gens qui soient résilients, des gens créatifs, innovants, des gens qui n'attendent pas que les choses se fassent, mais qui vont se lever, qui vont faire. Et ces gens-là, il faut s'entourer d'eux très très tôt. Et voilà. Nous, on a eu la chance de faire venir notre directrice commerciale de Dakar, grande bosseuse, super super investie.
Qui a repris l'activité
commerciale ici.
Gaëlle, c'était ça.
Comment?
C'est pas
Gaëlle, c'est Aïssatou.
Pardon, ok.
Boudjabi.
I'm sorry.
Gaëlle était la head of sales à Dakar, au Sénégal, voilà. Et voilà, donc il faut des talents comme ça, très solides, s'entourer très tôt, parce que c'est difficile, on ne peut pas porter la chose seule.
Bien sûr.
Il faut vraiment plusieurs personnes, 3-4 personnes bien solides pour driver la chose.
Et sur les sujets de culture, c'est la culture de Dakar que vous réinstallez là, ou tu crées une culture propre à Abidjan?
Oui. Après, quelque part, on va dire qu'on veut garder une culture d'entreprise un peu globale, unique. C'est pas forcément facile, mais après, je pense qu'aussi, c'était important pour moi. Moi, j'ai eu à faire un an et demi à Dakar, donc c'était un peu facile de venir dire voici comment on devrait faire, voici. Parce que l'idée, c'est que quand on se retrouve sur des projets en commun, même une réunion avec Dakar et Côte d'Ivoire, il faut que les gens de la Côte d'Ivoire comprennent comprennent, enfin, entendent ce que... Ouais. Et dans l'autre sens aussi. Il ne faut pas qu'on soit choqué parce qu'on dit telle autre chose ou telle autre chose qu'on ne devrait pas dire. Donc, d'accord, c'est des toutes petites choses de culture-là qu'il faut venir maintenant implémenter, de dire, bah, écoutez, des mails, on les rédige de cette manière, okay, dans notre organisation. Dans notre organisation, en réunion, on doit conduire une réunion de cette manière. Il faut qu'on soit moins... un peu moins rentre-dedans, un peu plus souple, un peu... Donc voilà, ça, je donne juste des points de culture comme ça, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de dire, on veut une culture unique. C'est challenging, c'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose qu'on essaie, en tout cas, de faire ici, de faire parce dans que les
vous
pays...
Vous avez une raison d'être ? Une raison d'être, PAPS ou pas ?
Une raison d'être, c'est-à-dire...
Beaucoup d'entreprises, maintenant,
oui,
définissent une raison d'être, une sorte de tagline... J'ai rien qui me vient. Si
d'accord,
ça ne parle pas, c'est
alors comme ça,
pas.
Non. Bah après, oui, c'est certainement, on a une raison. Mais vu, du coup, c'est la terminologie très spécifique. Après, nous, oui, nous, notre raison d'être, c'est enfin, la mission. Notre raison d'être, c'est construire des talents. Enfin, parce que les talents viennent de l'extérieur, certes, mais il faut qu'on réussisse à construire nous-mêmes des champions en interne. C'est-à-dire, on prend des jeunes talents, enfin des jeunes, et on en fait des grands talents demain.
J'ai encore plein de questions, mais je veux que le public aussi puisse t'en poser. Je vais te poser une dernière, d'accord, avant de poser mes questions de fin usée, oui, et laisser la place au public. Sur ton activité, qui est une activité qui est beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de bouche à oreille sur « je te conseille quelque chose ». Il y a forcément, à un moment donné, une livraison qui ne s'est pas passée comme tu souhaites. Mm-hmm. Comment tu... Si ça a été le cas, comment tu gères un moment un peu, une griffe de crise, un client pas content, un moment d'expérience client un peu dur, un client qui n'a pas, pas l'expérience qu'il attendait de vous, et que bien sûr tu n'as pas envie de délivrer ça parce que ce n'est pas de ta faute, parce que le livreur n'a pas fait ce qu'il fallait. Comment tu gères ce moment? Est-ce que c'est déjà arrivé?
Alors c'est arrivé, et c'est arrivé dans ces cas-là. Nous, on a une équipe qualité en interne.
D'accord.
Dans certains, selon la sévérité de ce qui s'est passé, dans certains cas, ça peut être des sujets que moi-même je vais gérer.
D'accord.
Parce que si le client, si le client... Bah, important, tous les clients sont importants. Si le client se dit, écoute, moi, les personnes-là ont pris au sérieux l'incident qu'il y a eu, parce que je les ai appelés, parce que j'ai cherché des solutions, parce que je vais faire X sessions où on va dire, voici les dysfonctionnements, on sort un plan d'action, c'est moi qui l'envoie, ça ne me dérange pas du tout de l'envoyer directement, et je suis. On va se reparler dans 2 semaines, on se reparle dans 1 semaine. Et ça, je pense que c'est tout de suite rassurant, parce que le client va se dire, écoutez, ils ont pris au sérieux la chose. La général manager était sur le call, elle a proposé des actions, on follow-up les actions et on réussit à. Donc, selon la sévérité, on va dire, on y va directement, j'y vais directement avec l'équipe, avec les commerciaux, avec le costume, la qualité, donc costume expérience. Ou dans d'autres cas, c'est juste donner les guidelines aux équipes pour pouvoir dire, allez voir le client, profitez-en, faites un comité de pilotage, sortez les données, parce que parfois c'est super important aussi, parce qu'on peut avoir l'impression que tout va très mal parce qu'il y a juste quelque chose. Enfin, c'est toujours important de venir préparer. Alors oui, sur cette chose-là, ça s'est mal passé, mais ce n'est pas pour chercher des excuses, mais on a fait ce volume. Sur cette partie, ça s'est bien mal passé. D'ailleurs, on peut même vous alimenter en données sur vos clients, vos comportements de vos clients, etc. Et sur ce point très spécifique, voici ce qu'on propose, call to action, et dans 1 semaine, on se reparle, 2 semaines. Et là, on va dire aux équipes, monitorer, parce qu'un client qui se plaint est sensible. Et nous, on va toujours taguer les clients sensibles pour dire attention, il faut qu'on le gère sur 1 mois, 2 mois. C'est comme ça qu'on essaie de gérer.
La confiance revienne.
Exactement, jusqu'à ce que la confiance revienne.
Est-ce que tu as des mentors, Penda?
Est-ce que j'ai des mentors? Je n'ai pas un mentor à titre réel. Je n'ai pas la chance d'en avoir, j'en ai. Mais après, je pense que j'ai un peu beaucoup de mentors un peu officieux. C'est que sur différentes problématiques, selon la problématique, je vais appeler un tel ou un tel ou autre sur X sujet. Après, mes amis sont des mentors aussi, les parents, les proches. Donc, j'ai un peu de mentorship, un peu pas officiel, pas formel, mais j'ai pas un mentor avec qui je parle régulièrement. J'aimerais en avoir.
Du coup, si tu avais l'occasion de pouvoir prendre du temps, un dîner, un déjeuner, ce que tu veux, un temps avec quelqu'un, peu importe où et qui cette personne peut être, qui c'est, ce serait qui?
Ah, si je devais avoir un mentor.
T'as 1 heure, cette personne te dit 1 heure.
Une heure.
Je pose toutes les questions que tu veux.
Alors je pense à une. Alors peut-être que la personne se reconnaîtra, peut-être que je ne le nommerai pas, mais 1 heure, je le passerai avec une personne qui est dans un fonds d'investissement et donc qui investit, qui vient du monde de la tech, qui a fait beaucoup de des startups, qui est très innovation et qui maintenant investit. Donc très inspirant, très cultivé, très rapide. Et très, il a un avis sur tout. Lui, ce serait un mentor 360 degrés sur ma vie.
Il serait pas polytechnicien par hasard ?
Alors, non, c'est un Télécom Paris. Mais un Télécom Paris, il a fait ses études aux US. Mais il pourrait carrément être un polytechnicien. Enfin,
très fatigant.
C'est fatigant. Mais voilà, mais du coup, ce serait cette personne. D'accord. Je pense qu'elle pourrait m'apporter énormément de choses dans ma vie perso. Et bah, du coup, maintenant, je commence à l'appeler de façon un peu informelle. Quand j'ai des cases comme ça au milieu de la journée, comment tu aurais fait ? C'est comme ça que j'aurais fait. Même pour des rendez-vous clients, il m'arrive de dire, bah, je dois avoir un tel, comment tu fais ? Fais un déj, fais-le comme ça. Parle pas toujours tout de suite business. Crée de l'ONS, parle de toi, etc. Et après, le reste, il te branche avec quelqu'un de l'équipe. Tu mets avec tes équipes, ça avance, tu auras fait ton job et tu vas un peu le follow-up avec lui, lui donner des heads-up de temps en temps. Et voilà, il va me partager des tips comme ça. Okay. Et voilà. Et notre CEO est un peu un mentor aussi. Il a beaucoup d'expérience, enfin, et du coup, c'est toujours intéressant d'entendre. Lui, je peux aller vers lui, ou parfois, il peut juste venir vers moi. Okay. Il dit, hey, je pense que tu devrais faire ça, ça, ça. Et parfois, je dis, ok, je note. Il me dit, ah, je comprends, j'entends ça, ok. Quand tu le dis, c'est parce que c'est pas convaincu. Ouais. Il va essayer de me convaincre ou revenir plus tard. Donc voilà, donc c'est un peu aussi une façon de mentorer. Okay. Avec beaucoup de patience, il y fait. Il y va avec beaucoup de patience, enfin, il pousse pas trop. Donc voilà.
Last. Est-ce que tu as une référence culturelle que tu as envie de nous partager ? Un livre, un film, un théâtre, ce que tu veux ?
Tout ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je partagerai ? Je partagerai le petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Parce que du coup, il nous invite le monde à s'indigner. Parce qu'on peut s'indigner pour beaucoup de choses. Il y a suffisamment de choses pour lesquelles on s'indigne. Je me dis, il faut qu'on s'indigne nous tous à notre niveau. Et qu'on se dise, bah, si on veut... si on veut plutôt ne pas reproduire les erreurs du passé, il faut qu'on s'indigne. Si on veut avancer vite, il faut qu'on s'indigne. Et donc moi, je m'indignerai sur j'irai sur le changement, sur tout ce qui est protection sociale dans nos sociétés. Je me dis, il faut qu'on mette en avant l'intérêt général. Il faut qu'il y ait de la protection sociale, mais c'est comme ça qu'on crée des sociétés qui sont riches, des sociétés où on est à l'aise, des sociétés où on se sent baqué par un système social qui est là. Okay. Et il faut qu'on arrive à ça. Et je pense qu'on commence à créer la richesse qui nous permet d'être vers ça. Il ne faut pas qu'on attende 150 ans pour avoir des vrais systèmes de protection sociale, que demain, si la personne a une invalidité, elle peut être payée, mais elle n'a pas demandé à l'invalidité. Donc ça, ce serait un des principaux focus sur lesquels je m'indignerais pour que nos États, ou même enfin, tout le monde, puissent militer pour qu'il y ait la vraie protection sociale dans nos sociétés. Donc voilà, donc ce serait Stéphane Hessel, alignez-vous.
Merci beaucoup Benda, moi j'ai énormément appris, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais laisser la place au public de poser ses questions, de nous dire juste ce que vous pensez. Questions, réactions, ce que vous voulez.
Invitation. Merci à tous d'être venus, un plaisir d'échanger, parler de moi, je ne parle pas souvent de moi. Et mot de la fin, moi j'ai envie de dire travaillons. Faisons un peu moins de théorie et allons-y. Vraiment, enfin, c'est vraiment l'heure pour nous de travailler. C'est ce que j'ai envie de dire, de partager. Et merci encore pour ton invitation.
Merci beaucoup à toi, Panda.
Salut.